Bonjour.
Salut.
Comment vas-tu, Edith?
Moi, ça va. Et vous, comment ça va?
Comment ça va? J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Et bienvenue dans le 5e épisode de Postpot.
Ouais, trop bien.
Alors, pour la petite histoire, c'est le... En fait, on enregistre ces épisodes 4x4 pour des raisons logistiques. Donc, on avait enregistré les 4 premiers d'un coup. Ici, on va enregistrer les 4 suivants. Donc, sur les épisodes précédents, on ne savait pas encore le retour des personnes et de comment ça allait se passer. Et on est assez... en tout cas, moi, personnellement, je suis assez content. Pas mal de personnes ont regardé sur YouTube ou suivi sur Spotify ou se sont abonnées. Ça va, non. Même des personnes en dehors de notre entourage... Donc ça, c'est déjà bien. Donc voilà, on voulait vous remercier pour ça. Et sinon, comment vas-tu?
Moi, ça va.
Ça va?
C'est le matin. Hein.
C'est le matin.
Presque midi. Hein,
ça sort à 16h.
Ah
donc...
ouais, ça sort à
16h,
c'est vrai.
Et donc, pour cet épisode, le thème est...
Poisson d'avril?
Non,
parce que ça
sortira pas le 1er avril non plus.
Non, mais bon. Non, je sais pas, j'ai tout oublié.
T'as oublié. C'est le luxe et
ah
la
oui,
mode.
Ah oui, trop. Oh, alors là. Oh, bah
ah,
alors là, on est parti.
On aime bien.
Ouais, on aime bien.
Et pourquoi le luxe et la mode?
Vas-y, on t'écoute.
Ah, parce qu'en fait, donc, Edith et moi, vous savez qu'on a travaillé ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus lors de mon premier boulot. Toi, c'était pas ton premier, mais voilà. Et ben c'était dans une très grande entreprise de luxe.
Et de mode.
Et de mode, du coup, assez connue.
Assez connue, ouais.
On va dire. Bon, et voilà, donc ça nous fait en fait un point commun dès le départ, on va dire ça comme ça. Même si j'étais un peu étranger à ce monde.
Oh,
avant
bah
de
non, t'as fait un travail de fin d'études sur les sites de luxe.
J'ai fait un travail de fin d'études sur les sites de luxe de manière générale, mais je veux dire d'un point de vue. Le monde m'intéressait, mais je ne suis pas un des clients.
Ah oui, bah ça, ouais, en même temps.
De dire ça comme ça, tu vois. Donc,
Tu vois les prix.
Oui, c'est ça. Mais ça, oui. Mais tu vois, ça dépend aussi. Ça dépend vers quel luxe tu vas. Tu vas. Parce que dans mon TFE, par exemple, je disais qu'il y avait différents types de luxe.
Ouais.
T'as des luxes où c'est abordable. Je prenais un exemple, c'était le site d'Abercrombie, c'est pas vraiment du luxe,
mais
c'est beaucoup plus cher.
C'est premium, alors.
C'est ça, c'est plus du premium. Mais après, tu vois, j'analysais Louis Vuitton, qui est d'office plus cher, et puis directement, j'analysais Cartier.
Ah ouais.
Tu vois qu'il y a encore une étape.
Parce que Cartier, c'est que des bijoux.
Oui, c'est que des bijoux, oui. Mais c'est différents types de luxe que tu pourrais t'offrir en fonction de tes envies ou pas.
Oui,
ou
moi,
pas t'offrir.
Eh ben, écoutez, s'il y a un sugar daddy qui passe, ou je ne sais pas, moi je rêve d'une superbe bague léopard de chez Cartier. Donc voilà, je lance.
Au hasard. Qui coûte combien?
Oh, j'en sais rien. Combien ça coûte? J'en sais rien, des milliers d'euros.
Ah oui, sûrement.
1000, 30 000, 20 000, j'en sais rien.
Ah oui, carrément, quand même.
Ouais, tu sais, c'est des bagues avec... Et en fait, t'as la panthère, qui est le symbole de Cartier. Et alors, sur la panthère, tu peux avoir plein de brillants, quoi. Donc, en fonction de ce que c'est des pierres, j'imagine que le prix... Je veux pas jamais te regarder les prix. Ma chérie, c'est hors budget, hein. Donc...
Mais ouais, donc j'analysais ça, si tu veux, et j'avais fait tout un travail par rapport à ça, où je disais qu'il y avait différents niveaux de luxe, en fonction de ce que tu pouvais te permettre ou pas, et c'est comme ça que je me suis intéressé au luxe, et je pense que c'est comme ça que ça a intéressé notre manager à l'époque, quand j'ai fait mon entretien dans l'entreprise en question.
Trop bien, alors que moi je suis arrivée comme un cheveu dans la soupe, et je sens vraiment... Moi, pour la petite histoire, j'étais un peu une enfant et une adolescente, genre j'étais un garçon manqué. Mmh. Je me rappelle quand j'étais plus petite, plus jeune, maman, elle voulait me mettre des robes, des jupes. Quand j'ai commencé à être adolescente, elle voulait m'acheter un sac à main. Et moi, je me disais, qu'est-ce que je foutrais avec un sac à main? Moi, j'étais toujours en pantalon, en basket, j'avais mes sacs à dos, voilà. Je me rappelle de un de mes premiers, entre guillemets, sacs à main. C'était juste un sac bandoulière, type tote bag, genre Pirates des Caraïbes, quoi. Et ça faisait mon bonheur. Donc, j'étais vraiment très étrangère à ça. Et en fait, quand j'ai été contactée pour ce poste, c'est parce que j'avais fait des cours du soir de russe. Donc, autant dire que je ne parle pas russe, mais je peux le déchiffrer. Et bref, ça intéressait du coup notre manager. Et je suis vraiment arrivée, moi, à l'entretien aussi en mode YOLO. Et elle me dit, ah, je suppose que tu as été faire un tour sur nos titres. Je dis, oui, non, évidemment, Edith. J'étais là. Et quand elle me l'a dit, je me suis dit, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. C'est pas con, tiens, c'est pas con. Je me suis dit, bon, ils me prendront pas, donc pour la prochaine fois.
Ah, tu partais du principe que.
Bah ouais, enfin, je sais pas. Je me sentais pas du tout.
Parce que tu sens. Ouais.
Ah, j'étais vraiment comme un cheveu. Ouais, pourtant, je m'étais hyper apprêtée et tout. Enfin, j'étais vraiment dans un personnage. Et puis, non, il fallait quelqu'un. Donc, j'ai été prise. Et j'ai vraiment découvert, finalement, le luxe, c'est une chose, mais aussi le monde de la mode, tu vois, où j'étais pas du tout.
Ouais, bah ouais, moi c'est aussi comme ça, c'est. Et une fois que tu es dedans aussi, par rapport donc, au monde du luxe et de la mode, c'est beaucoup storytelling. Tout a une histoire.
Ce qu'on te vend, c'est une histoire.
Oui, c'est ça, ouais. Mais parfois tu le sais pas. Par exemple, nous dans l'entreprise où on était, chaque sac avait un nom.
Ouais.
Et le nom choisi.
Ah oui,
c'est
oui,
pas
oui.
au hasard.
Non, c'est
fait,
pas au hasard.
Penser,
ouais, ouais,
t'as à chaque
sûr,
fois
sûr,
une histoire par rapport à ce que. Si jamais c'est le fondateur ou.
Ouais,
autre
ouais,
chose,
bah c'est le mythe qui est créé autour des maisons. Et ils le font tous. Hein, dans d'autres marques, c'est la même chose. Je veux dire, que ce soit Louis Vuitton, Chanel, Hermès. Je vais citer ces trois-là parce que c'est les trois que je connais le mieux en termes de produits. Tous les sacs, tous les produits, ils ont tous un nom, une histoire, un truc, et puis on te vend. C'est l'expérience. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retiré, que le luxe, finalement, peu importe en fait le prix du produit final, parce que dans le luxe, je pense que tout le monde est au courant, mais il n'y a aucune corrélation entre la valeur réelle du produit et le prix auquel on te le vend. Ce qu'on te vend, c'est un univers, c'est une histoire, c'est une image de marque.
Il y a aussi ce qu'il y a avec ce genre de produits de luxe, bon, pas tous, mais certains, c'est tu as la main-d'œuvre qui reste en Europe. Et tu vois des matériaux quand même qui sont globalement un peu plus.
Ah, si, ça je dis pas, ouais, oui, je dis pas. Parce que du coup, comme on a travaillé là-bas et tout, ben, j'ai commencé à m'intéresser aux sacs et aux chaussures, un peu aux vêtements, mais moins. Et tu as vraiment. T'as une différence entre un sac de luxe, vraiment donc d'une maison de luxe, que ce soit Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, enfin peu importe. T'as vraiment une différence de qualité du matériau et même avec des marques premium comme Kurt Geiger, là je sais même pas dire. Mon sac noir. Geiger, Geiger, là. C'est une marque premium. Bah t'as, pour avoir les deux sacs, du coup, t'as vraiment une différence de confection, de matériaux, que ce soit le cuir ou tout ce qui est pièces métalliques, etc. Bah, quand t'achètes un sac luxe et pas premium, bah, les chaînes et tout, et le cuir, ils sont quand même différents. Après, c'est une différence qui va avoir un impact sur le prix. Ce qui va avoir un impact sur le prix aussi, t'as effectivement, comme tu le disais, la main d'œuvre. Donc, ouais. Est-ce que c'est fabriqué en Asie ou est-ce que c'est fabriqué au moins en Union européenne
Et à la main. Parfois, tu as des modèles
à
la main. Bon, c'est encore plus cher.
Ouais, ouais, et à la main.
On a vu des artisans.
Oui. C'était super, hein, cette journée-là.
Ouais. On a vu des artisans qui travaillaient des malles, en fait, et des maletiers. Et qui faisait que ça.
Sur mesure, et puis aussi des sacs en crocodile, machin, enfin tous les cuirs exotiques aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que tu as quand même un savoir-faire qui est intéressant. Mais. Parce que, ouais, du coup, tu disais que quand on était dans cet environnement, je trouve aussi qu'on. On relativise des trucs où finalement, à la fin, tu te dis « Bah, 500 euros pour un sac à main, mais c'est pas cher !»« Mais si, 500 euros, allô, 500 euros !» Enfin.
Tu perds la notion de l'argent, tu travailles dedans.
Ouais, tu perds la notion de l'argent.
On travaillait juste à côté du service client de cette entreprise. Donc, on entendait des histoires avec des clients qui appelaient pour des achats. Quoi. Mais au bout d'un moment, alors que les personnes achètent un sac qui coûte ton salaire, je veux dire,
ah
ça
ouais,
comme
même
ça,
plus.
Ouais, pour un cadeau parfois.
Ouais.
Et toi, tu dis, ah oh, bah oui,
bah, oui.
pourquoi pas? Alors que non, pas du tout, tu gagnes pas ça, donc toi, il y en a fort en fait. Donc,
ouais, non, c'est clair, c'est clair. Tu te dis, mais hein, quand je voyais, moi, quand c'était la vente au personnel, donc ça se fait dans les maisons, je suppose aussi dans d'autres maisons de luxe, quand tu travailles pour la maison, X fois par an, tu as accès finalement ben, au stock d'invendus, ou en tout cas pour nous aussi, aux produits qui étaient avec des micro-défauts, donc qui ne
Ouais.
pouvaient pas être vendus. Moi, j'en ai un de mes sacs, genre les hardware, ils sont pas de la
Ouais.
même couleur, mais j'ai mis
OK.
longtemps à m'en rendre compte, hein.
D'accord,
Genre, je
OK.
crois que tout est doré et la tirette, elle est genre argentée, quoi. Tu vois, il y en a un qui s'est trompé. Celui qui a posé la tirette, elle a dû se sentir mal, la pauvre. Enfin bon. Et donc, quoi, ouais, plusieurs fois par an, t'as accès à ces ventes avec évidemment des prix préférentiels. Mais on va pas se mentir,
Pas sûr.
ça reste cher,
Ouais.
forcément, puisque le prix de base est ultra cher. Donc, on passe de quelque chose de ultra cher à quelque chose de cher. Et quand je voyais parfois certaines personnes du service client, enfin, allez, tu voyais ce qu'ils recevaient, c'est pas difficile de faire le calcul et de te dire. Cette personne, elle a dépensé 2 ou 3 000 euros
Ouais.
juste là, comme ça. Alors après, bon, va te dire oui, mais c'est pour offrir, oui, mais c'est voilà. Mais tu perds, ouais, tu perds, je trouve. Allez, enfin, moi, je pars du principe, si tu gagnes, je sais pas moi, 10 000 euros par mois, et que.
Pas mal.
Bah oui, et que du coup, 3 fois par an, tu te dis, je vais m'acheter un sac à 2 ou 3 000 euros. Ben, c'est logique, ça va avec ton train de vie. Mais quand tu as un salaire relativement médian, normal, entre 1 500 et même 3 000 euros net, ce qui est déjà beaucoup, enfin.
Après, regarde, il y a des. Je sais qu'il y a des personnes chez nous, mais je crois que ça se faisait beaucoup en Chine. Le fait de posséder un sac de luxe, ça faisait partie d'un accomplissement.
Ah oui.
Et qui mettait de côté chaque
Ouais.
mois, je vais t'inventer 20 ou
Ouais,
30
oui.
balles,
C'est pour
juste
ça.
pour
Ouais, je
ça,
sais.
tu
C'est pour
vois.
ça que les rues sont pleines de Neverfull, de Speedy, de. Ouais. Parce que ça a été la mode. Et encore. Enfin, je sais pas. Non, toi, tu suis peut-être pas. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien suivre des chaînes YouTube de meufs
Ouais.
qui parlent que de luxe et qui montrent que des sacs de luxe. Et d'ailleurs, je me demande où ces filles trouvent tout cet argent. Mais bref, peu importe. Et j'aime bien continuer à suivre ça. Parce que j'aime bien voilà, j'aime bien regarder les modèles et tout, ça me donne des idées pour moi coudre des sacs, voilà. Mais quand je vois qu'il y a plein de gens, en fait, j'ai l'impression que ça contribue à banaliser que c'est normal d'acheter ça, en fait. Et que si t'as pas un sac de luxe, on parle de sac, mais ça peut être une montre, ça peut être des. Je sais que chez les garçons, c'est très populaire, les baskets aussi, qui peuvent coûter très cher, machin. Enfin, je parle de sac, mais c'est pas forcément un sac. Mais ça banalise le fait que avoir un objet de luxe, c'est genre un normal, deux, un accomplissement dans ta vie, alors que oui, c'est joli, mais ça reste qu'un objet, quoi.
Ouais, après ça dépend si t'es matérialiste ou pas.
Bah oui et non. Regarde, donc j'ai 3 sacs de la maison pour laquelle on a travaillé. Et puis à côté de ça, j'ai acheté un sac à Londres, mon sac licorne là à 50 euros. C'est le sac que j'ai le plus porté, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas forcément de. Enfin, je trouve que moi j'en suis beaucoup revenue en fait du luxe. Si j'avais le train de vie qui va avec, je te dis que je gagnais 10, 20 000 euros, j'en sais rien, par mois, bah ouais, j'irai chez Dior, j'irai chez où tu veux, acheter un sac de temps en temps, me faire plaisir et claquer mon argent comme ça, comme si j'allais, je sais pas moi, chez H&M, acheter un truc, tu vois. Mais pour 90% des gens, en fait, quand tu es dans cette classe ouvrière ou classe moyenne, même moyenne plus, en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est.
Oui, mais bon, si eux, ça leur procure du plaisir, je veux dire ça comme ça.
Oui, ça, je suis d'accord, que ça procure du plaisir. Ça procure du plaisir peut-être à l'achat.
Oui.
Enfin, moi, j'ai jamais acheté dans une boutique de luxe, donc je sais pas exactement quelle est l'expérience, mais j'imagine que c'est agréable.
Pourtant, on a déjà été dans des boutiques de luxe.
Ouais, du coup. Oh oui, on n'est pas trop à notre place.
Pas trop à notre place, mais on a quand même accepté le champagne et compagnie pendant qu'on nous a visité la boutique.
Ça, d'accord. Mais ouais, enfin, et oui, ils sont jolis, donc t'as du plaisir à les voir, à les sortir ce que tu veux, mais pour la même somme d'argent, il y a peut-être des choses, je trouve, plus sympas.
Ouais, plus utiles aussi.
Mais bon, ça dépend
de tout à chacun, ouais, tu vois, c'est ce que je voulais dire par matérialiste. T'en as par exemple qui vont se dire je vais faire 12 voyages, enfin un voyage par mois, tu vois.
Ouais, et ça, c'est aussi,
enfin, d'un autre point de vue, tu pourrais te dire c'est des moments que tu passes sur le moment, mais tu l'as dans ta tête, mais tu l'as pas chez toi.
Tandis que
les matérialistes vont plus se dire je vais chez moi.
Oui, et puis il y a des gens qui aiment beaucoup collectionner. Du coup, c'est vrai que c'est chouette d'avoir.
Collectionner, puis t'as certains modèles qui vont prendre de la valeur.
Oui, j'allais y venir.
Ouais.
J'allais dire, il y a beaucoup cette pensée, moi je dirais même une croyance, que c'est un investissement monétaire en fait d'acheter du sac de luxe. Et je dis ça sur YouTube, t'as beaucoup de filles qui. Qui font, même des mecs, qui font des vidéos et puis qui te disent ah, quel sac acheter pour faire un investissement. Mais moi, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est vraiment une connerie. Si tu as de l'argent à investir, investis-le dans un vrai produit d'investissement. Bon, alors j'y connais rien en finance et tout, mais j'imagine qu'il y a des vrais produits financiers d'investissement plus ou moins sûrs, et etc. Un sac, oui, ça reste un. Enfin, c'est. Oui, peut-être que certains sont des investissements, mais ça reste un objet, ça reste quelque chose de fragile. Qui va subir les affres du temps, du fait que tu vas l'utiliser ou pas. Même si tu ne l'utilises pas, il faut le stocker correctement pour pas qu'il s'abîme. Et alors, ça subit aussi les effets de mode et de pas mode. Alors oui, il y a peut-être des modèles où tu sais qu'ils vont prendre de la valeur, que je mets entre guillemets, parce que pour moi, quand on regarde maintenant les prix des sacs Chanel, c'est du délire. Genre, ça coûte 10 000 euros. Non, mais... Ah ouais, ouais.
Ah ouais, j'ai pas suivi.
Ah, si, ils veulent... En fait, Chanel, ils veulent devenir de l'ultra-luxe, un peu comme Hermès. Okay. Un sac Hermès, que ce soit le Kelly ou le Birkin. D'ailleurs, ça aussi, ça me fait trop rire. Quand je vois toutes des nénettes de 20-25 ans avec des Kelly ou des Birkin, je me dis, mais... Allô, enfin, ça fait petite madame de 60 ans, quoi, hein, excuse-moi, mais enfin bon, ça c'est que mon avis. Mais ces sacs-là, ils coûtent, je sais pas moi, 10 000, 15 000 à l'achat. Et alors en plus, tu dois avoir la chance qu'on te propose d'acheter un sac. Enfin, allô, arrête ton délire à un moment donné, hein, je veux dire. Je viens chez toi parce que je vais claquer 10 000 balles. Et en plus, ben même pas je vais pouvoir avoir le sac que vraiment je veux parce qu'il faut un qui soit disponible ou deux que tu me le proposes. Tiens, est-ce que tu veux acheter celui-là ? Non mais, je suis désolée, mais pour moi c'est du délire, mais complet ça. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui... Enfin, je sais pas.
Ils s'emmerdent, à mon avis, des gens qui s'emmerdent.
Et alors, t'entends partout sur internet qu'il faut que t'ailles... Oui, il faut passer en boutique, il faut que t'ailles te faire voir, il faut que... t'entretiennes une relation avec un vendeur, il faut que t'achètes des conneries, mais des conneries à 100 balles, 200 balles, hein, avant qu'on te propose de pouvoir acheter... Non, mais après, je raconte ce que j'ai entendu, moi, j'ai jamais voulu acheter un sac Hermès, mais je trouve ça complètement délirant. Et en fait, tous ces sacs-là, qui sont sur le marché, moi, j'ai plus l'impression quand même que pour 90% d'entre eux, dès que tu le sors du magasin, c'est comme une bagnole, c'est comme un ordi, ça dévalue, tu vois,
oui.
Parce que c'est plus un objet neuf. Après, il y a quelques modèles peut-être, mais...
Non, mais après, ça dépend aussi, mais c'est comme pour tout par rapport aux objets, je veux dire, tu as des objets que, par exemple, la marque ne va plus produire.
Ouais. Oui, ça oui.
Qui
ça,
sont
oui.
peut-être encore... Encore bien en forme si tu l'as pas trop utilisé. Donc, dans ce cas-là, si tu.
Oui, il y a des.
Tu vois, la rareté du produit. Ou parfois, tu as aussi. Je sais pas si ça se fait dans le luxe, mais parfois t'as des sacs qui ont justement des, pas des malfaçons, mais qui ont une erreur, je veux dire, dans
le sac.
Ah oui,
qu'après ça
devient...
Du coup,
ça devient un modèle unique en soi.
Je sais pas trop si ça existe.
Je sais pas si
sur les cartes Magic, ça existe, mais
sur les figurines Nintendo aussi, c'est pour ça que j'y pensais. Non, donc tu vois, je me dis, peut-être que cet aspect-là aussi, même si moins, mais ouais, effectivement, c'est un peu du délire, et parfois, il n'y a pas... C'est que le luxe, ou c'est le délire par rapport à ça, par rapport à la mode aussi, de manière générale, je pense à Supreme.
Ah ouais.
Si tu vois Supreme, ils font un cendrier et t'as plus le logo Supreme dessus, c'est 250 euros. Ben, tu vois, alors t'as rien.
Ah ouais, non, moi je trouve ça.
Alors que je crois même pas que Supreme, c'est des matériaux, je veux dire, nobles, plus ou moins, tu vois. Donc, c'est vraiment la marque, quoi.
Les sacs en toile de luxe, et que ce soit pour Louis Vuitton, ou pour Gucci, ou pour Michael Kors, enfin bon, même si c'est plutôt premium, Michael Kors.
Ouais, c'est plus premium.
Mais tous ces sacs en toile, c'est du plastoc, hein, les gars. C'est pas parce que vous avez trois bouts de cuir et deux belles bijouteries qui se battent en duel que ça en fait un sac d'une valeur incroyable. Non, c'est la valeur... que les actionnaires, auxquels les actionnaires doivent le vendre pour que ça, pour continuer à gagner toujours plus, mais c'est pas le prix intrinsèque de l'objet, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois.
Et ça, il y a un truc, c'est aussi ce qui m'a finalement dégoûté, parce que moi j'ai vraiment eu ce truc de, tu rentres dans le monde du luxe, tu connais pas, donc d'abord tu découvres. Ensuite, tu as cette phase un peu d'ivresse et de paillettes, où comme on disait, on peut perdre la notion de l'argent. On a toujours, enfin, moi, j'ai eu ce truc, j'avais toujours envie de plus, toujours le nouveau modèle. Et c'était aussi peut-être l'environnement de travail hein, qui voulait ça, mais voilà. Et puis après, quand tu sors de là et que tu prends du recul et que tu te renseignes un petit peu plus, ben, moi, je trouve que vraiment, ça va en conflit en fait, avec mes valeurs, le prix auxquels sont vendus les sacs et finalement comment l'argent est redistribué
tu vois dans la société.
Dans la société,
oui. Oui.
C'est, tout va aux actionnaires, ou presque, et puis quand tu es un simple employé du tertiaire, bah, t'as pas forcément... tu te dis, ah, je travaille pour un tel, les gens disent, oh, mais non, toi, t'es juste... Toi, t'es juste employé et t'as juste un salaire genre normal comme n'importe quelle autre personne qui ferait la même fonction que toi dans une autre industrie ou presque, quoi, tu vois.
Et en plus, on subit le diable s'habillant en Prada tous les jours. Ouais. Non, mais j'exagère, mais ouais, le travail, ouais. Parce que ceci, c'est quelque chose que je voulais aborder, mais travailler dans le monde du luxe, ça reste très particulier,
ah,
tu vois.
C'est une bonne expérience.
C'est une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait.
Ouais,
Moi, je pensais que c'était comme ça partout.
Ah oui, bah non.
Du coup,
pas du tout.
Mais non, et en fait, quand tu vois d'autres entreprises,
ouais.
C'est pas... Je sais pas expliquer ce... Oh, c'est... Ouais, je veux dire, ce management, cette pensée... Nous, c'était une entreprise parisienne, donc je dirais parisienne, comme ça. Et c'est pour ça que je pense au Diable s'habillant au Prada avec Anna Wintour, enfin... C'est un peu... Ou Emily in Paris aussi.
C'est vrai.
Emily in Paris, quand j'ai vu les premiers épisodes...
Ah oui, moi j'adore pour ça.
Il y en a plusieurs qui me disaient, ah, caricature et tout, mais en vrai,
pas tellement. Oui, c'est caricatural de Paris, des horaires de travail, voilà. Mais intrinsèquement, certaines personnes, certains personnages de Emily in Paris, notamment la française, là, sa chef, je sais pas comment elle s'appelle, toute mince, mais elle... Bah si, elle, je l'ai pas vue une fois pendant qu'on travaillait là-bas, je l'ai vue 10 fois, hein, elle. Et c'est des clones, hein, toutes, elles sont comme ça. Et tu te dis, mais...
C'est une expérience.
Ah oui, moi, quand j'allais là-bas habillée en jeans, basket, pull, j'avais l'impression d'être une pouilleuse, une baraquie. Et du coup, c'est le défilé de mode permanent et tu t'habitues, quoi. Et après, quand j'allais faire les soldes ou les magasins avec ma mère et qu'elle essayait des habits un peu sympas, un peu bien habillés, machin et tout, et je disais, mais prends-le. Et après, elle me disait toujours, mais oui, mais... Quand est-ce que je vais avoir l'occasion de mettre ça ? Et moi, je disais, mais pour aller travailler, hein, puisque on allait travailler, on était genre le Nouvel An, ou le jour d'aller travailler, le jeudi, c'est pareil, quoi.
C'était des filets de mode permanents dans le bureau.
Et c'est vrai qu'en sortant de là, et puis en retrouvant un boulot plus classique, je veux dire, J'ai aussi, parfois, je regarde certains de mes vêtements et je me dis, mais ah oui, là-bas, je l'aurais mis, mais ici, je vais détonner dans les couloirs, quoi, on va voir que moi.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que moi aussi, maintenant que tu le dis, il y a des trucs que j'ai plus remis.
Ah bah après, oui.
Ou plus dans le privé.
Oui, plus dans le privé,
mais
oui.
Mais pas. C'est vrai que, ouais, j'aurais pas osé mettre ça. Après, j'ai travaillé dans le milieu bancaire.
Ouais, notamment à l'État. Parfois, j'allais donc travailler à l'État en bombe, comme quand j'allais à cet autre travail dans le luxe. Et t'avais les longs couloirs comme ça, et je marchais avec mes talons toute seule dans le couloir. Il y avait tout le monde, porte fermée et tout. Et quand je croisais quelqu'un, j'étais là en mode, ouais, je sais que c'est beaucoup trop pour ici. Mais bon, après, c'est aussi ça que j'ai découvert. C'est que la mode, finalement, c'est peut-être con, mais ça te sert à te faire plaisir, tu vois. Et ça te sert vraiment à te sentir bien.
Et aussi, je sais pas si c'est parce que c'est la mode, mais un des points positifs, c'est que c'est un milieu assez ouvert
d'esprit.
D'esprit, ouais. Par rapport à...
Oui, c'est vrai.
Enfin, je veux dire ça par rapport à moi, donc je suis gay. Enfin,
je n'osais
pas le dire au début.
Ouais, ouais.
Finalement, je crois qu'il y avait plus de gays qu'hétéros. Donc,
oui. Je crois qu'il y avait deux mecs hétéros. Et puis,
oui, c'est ça. Mais... Donc, et au final, c'était assez... Enfin, j'étais content de cet aspect-là parce que je ne savais pas, comme c'était mon premier boulot aussi.
Et de manière générale,
c'est assez inclusif.
Oui, de manière générale, c'est assez inclusif, même sur la diversité ethnique. Il y avait des gens de partout, ça c'est vraiment très chouette.
Oui, ouais.
Pour ça, c'est très enrichissant, quoi. Mais, vraiment, moi, ce que je trouve qui ne fonctionne pas dans cette industrie, c'est vraiment ce trop grand fossé entre la valeur, le coût réel, même en intégrant tous les frais de fonctionnement, tous les coûts de fonctionnement d'entreprises comme ça, hein, je comprends bien. C'est des multinationales, il y a des boutiques partout, il y a une infrastructure incroyable au niveau technologique, internet, les entrepôts, tout ce que tu veux. Enfin, je comprends que ça fait des frais énormes et que donc il faut répercuter ces frais-là sur le prix des produits. Mais bon, il y a un juste milieu, je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir. Et ça m'a fait un coup de massue quand, il y a 2-3 ans, parce que donc, je suis en pleine reconversion professionnelle, et il y a 2-3 ans, j'avais un peu ouvert tous mes horizons. Et entre guillemets, pas trop loin de chez mes parents, bon, à 2 heures de route, mais dans le nord de la France, Hermès, ils ont des entrepôts, des entrepôts ateliers, où ils fabriquent à la main, donc en France, les produits Hermès, et où tu peux venir de n'importe quel... background, si t'es motivé et que tu passes certains tests d'aptitude manuelle, machin, tu peux te faire former, et après t'intègres l'entreprise, blabla, et puis tu fais, voilà. Et comme j'en avais marre de travailler derrière l'ordinateur et que je voulais travailler de mes mains, je m'étais renseignée. Et ensuite, en fin de carrière, un maroquinier de chez Hermès, donc je rappelle qu'ils vendent des sacs à 10 000 euros, je répète.
C'est lui qui fait le sac.
C'est lui qui fait le sac, le cuir ça ne coûte pas 10 000 euros. En fin de carrière, hein, ils arrivent à peine à 2 000 euros net par mois.
Mais c'est aussi, il y a peut-être l'aspect, en France ils gagnent de base moins que...
Oui, mais peu importe.
Oui, mais pas à ce point-là, je suis d'accord. Vois, oui.
Moi, quand bien même ce serait 1 000 euros ou 5 000 euros, le truc, c'est t'es payé toi 2 000 euros et ton sac, il est vendu.
Hein. Ah oui, je vois.
C'est plutôt ça où je me dis, mais...
Ah, tu peux dire ça pour tout, alors.
Non, c'est particulièrement marqué dans le luxe. Quoi.
Mais d'accord, mais pas des trucs que même chez Action, ça coûte 2 cents à produire.
Entre 2 cents et puis 2 euros ou 3 euros que toi, tu vas le payer, ça coûte 2 cents parce que c'est fabriqué à l'autre bout du monde et que c'est de la cacaille.
Oui, c'est vrai.
Tu vois ?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, je me dis, ok, si j'avais... tu vois, si le sac, il vaut... 150 euros à produire en incluant le coût du matériel, le coût de la personne qui a travaillé. Allez, je pousse même jusque 200 euros en incluant tous les coûts annexes.
Bah, il reste la logistique,
oui, c'est ça, tout,
le marketing, oui, tout ça, un peu
tous
aussi,
ces, tous vois, ces ouais. coûts annexes. Disons même 250 euros. C'est déjà beaucoup.
Ouais.
Pourquoi tu le vends 10 000 ?
T'es sûr 250 euros ? Parce qu'il y a les coûts, mais il y a le temps que la personne passe dessus.
Oui, il y a une très bonne chaîne YouTube d'un Américain, enfin, Pourquoi il parle en anglais? Là, ça ne va pas ressortir de mon cerveau, mais
on le l'enverrai. Dans...
Voilà.
On le mettra dans la description.
Guillaume le mettra dans la description. Il fait beaucoup de shorts et où il... D'ailleurs, ça fend mon petit cœur à chaque fois. Il prend des sacs de marque, de luxe, Dior, Chanel, que sais-je, et puis il les dépiaute. Mmh. Parce que lui, en fait, il est artisan maroquinier. Et donc, il les dépiaute. Il enlève le fini sur le cuir aussi pour voir quel type de fini on a. Et puis, quel type de cuir on a en dessous, voir si c'est un cuir qui vaut vraiment cher ou pas. Parce que c'est comme pour tout, t'as différentes sortes de cuir. Et en fait, une fois qu'il a fini de dépiauter, d'analyser et tout, il fait une estimation... global du coût de revient du sac en comptant la matière première et juste le coût de fabrication, puisque lui il voit comment est monté le sac, il sait combien de temps forcément c'est son métier, ça peut prendre quoi. Et là tu te rends compte, enfin t'as vraiment, alors moi j'ai tendance à estimer plus, à renchérir sur son estimation, parce que comme on disait il y a tous les coûts voilà annexes, mais il y a une différence et en fait tout cet argent là la poche des actionnaires ou pour financer d'autres choses, mais pas pour financer en tout cas les petites mains qui travaillent quoi.
Alors que
ça me révolte un peu, beaucoup même. Et que chaque année ils nous disaient pour la fête de l'école, oh la staff party, oh cette année on a moins d'argent que l'année dernière. Par contre le service client hein, chaque année hein, ils devaient vendre pour plus et faire plus.
Mais nous aussi.
Bah oui nous aussi.
Et via le site on devait vendre et on arrivait chaque année. Donc...
Voilà. Alors il est où l'argent pour la staff party?
Un dernier mot pour
la fin. Voilà, ce sera mon dernier mot. Où est l'argent?
Rendez
l'argent.
Moi aussi, ce sera mon dernier mot. Merci à tous d'avoir suivi ce 5e épisode. On se retrouve pour le 6e épisode, du coup.
Ben voilà.
À tout de suite. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.